Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un explorateur du jardin vivant nous invite à le suivre sur les ondes. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Bonjour, donc moi c'est Stéphane, donc voilà, je suis intervenant pour une association de sensibilisation à l'environnement qui s'appelle Jeannette. Il y a quelques années, j'ai envie de sortir un peu de mon précédent métier qui était plus un métier, disons, assis devant un ordinateur, etc. Je me suis intéressé à la création de jardins partagés dans les villes et notamment à au développement des jardins pédagogiques dans les écoles. Et donc voilà, il y a quelques années, j'ai créé mon association pour mettre en place, favoriser la biodiversité à petite échelle, parce que bon, bah, notamment au niveau des écoles, c'est quand même assez minéral, assez bétonné. C'est un peu l'objectif à la base, et après j'ai ouvert à d'autres publics mes animations. Oui, donc j'accueille des groupes au jardin de Drec à Zuidkerk, donc c'est un grand domaine d'1 hectare et demi. Les enfants viennent découvrir la nature qui est préservée sur le site avec une petite forêt, des vergers, des jardins, des ruches, un poulailler, des cabanes, etc. Donc bon, c'est un peu comme une école buissonnière, on va dire. Et après, voilà, j'interviens pour pas mal de structures différentes, que ça va de la crèche en passant par les foyers spécialisés, etc. Donc je propose pas mal de choses autour de la sensibilisation à la nature. L'association Jeannette, je l'ai appelée comme ça parce que c'est Jeannette, ça veut dire petit paradis. C'est du perse et donc pour moi, le jardin, c'est un petit paradis. Mais c'est aussi la contraction de jardin au naturel, Jeannette, J-A-2-N-A-T. Donc ça tombait bien parce que c'est ce qu'on fait, du jardin au naturel.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en 3 mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Alors pour moi, le vivant, c'est le plaisir d'être dehors, tout simplement. Horizon, moi j'ai besoin d'un horizon quand on est en ville et entouré d'immeubles et de béton, etc. Moi, on voit pas beaucoup d'horizon, on le cherche, quoi. Et moi, j'ai déjà eu la réflexion d'un gamin qui m'a dit, en ville, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on a pas d'horizon. Et quand on va à la campagne, quand ces enfants de la ville viennent à la campagne, une des réactions, ça va être de dire, regarde, on voit loin, en fait. Et donc ça a vachement de sens, en fait, d'avoir de l'horizon, pas être entre quatre murs, quoi. Le vivant, c'est être dehors, quoi. Le vivant, on est en contact avec le vivant, c'est dehors, hein. Donc faut sortir de chez soi et puis passer du temps dehors. Mais c'est valable pour l'apprentissage. J'essaie de développer avec des écoles l'école du dehors, et les enfants assis, enfermés dans une classe 24/24, c'est pas possible, quoi. Par contre, dès qu'on va faire l'école dehors, ils apprennent beaucoup plus en ressentant les choses et en étant simplement dehors, quoi. Vital, parce que pour moi, c'est vital d'être dehors et puis d'être en contact avec le vivant, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui sont plus enfermées chez eux. Et puis, ça leur va. Moi, j'ai besoin d'être dehors, de passer un maximum de temps dehors, quoi. De respirer, quoi. Un goût, la chlorophylle. Chlorophylle parce que c'est la première chose qui me vient quand je pense aux vivants. Substance assez magique, la chlorophylle, qui nous permet à tous de vivre et puis d'avoir du vert autour de nous. Et puis ça, voilà, ça nous fait du bien, ça nous apporte du bien-être. Voilà, là j'ai fait une animation avec les enfants, il y avait de l'ail des ours, donc j'ai fait goûter de l'ail des ours à des enfants. Donc c'est le plaisir de la cueillette sauvage, quoi. C'est ça, qu'ils ne connaissent pas du tout, à part l'ortie qui est assez connue, mais le reste, ils ne connaissent pas du tout alors que c'est sous leurs pieds, quoi. Alors le son, c'est le chant du troglodyte parce que c'est un tout petit oiseau qu'on entend facilement, il est tout petit, tout mignon, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le troglodyte mignon. En plus il on voit assez facilement, moi ce que j'aime bien, il fait des nids avec de la mousse, des poils, enfin c'est vraiment super bien fait. En plus il chante super fort. Et la texture, ça serait l'écorce, moi j'adore faire des empreintes d'écorce au niveau des ateliers. Donc on réalise ça avec de l'argile, etc. Donc en fonction de l'écorce, et ben parce que pour reconnaître identifier les arbres, il y a plein de façons de faire. Il y a la forme des arbres, les feuilles, mais il y a aussi l'écorce. Donc et ça c'est une approche que j'aime bien faire avec les enfants. C'est une approche sensorielle où par exemple ça peut être avec les yeux bandés et puis l'enfant doit essayer de reconnaître 3-4 écorces. Et je vois du vert autour de moi, là, donc ça serait le vert, évidemment. Il y a plein de sortes de verts. Donc, quand on regarde un arbre, il y a le vert des feuilles, mais là, en ce moment, les feuilles, elles sont vert pâle, quoi. Donc, c'est vachement chouette en ce moment, c'est la meilleure période. Hein. Enfin, moi, c'est ma période préférée avec l'automne. Mais après, sur l'écorce des arbres, il y a le vert de la mousse, qui est un peu plus prononcé, mais après, il y a le vert du lichen, qui est à la fois une algue et un champignon. Donc voilà, quand tout est mélangé, c'est super chouette. Enfin, là, on est vraiment dans la période fin avril. Les bourgeons sont bien éclos maintenant, puis on commence à voir toutes les fleurs. Moi, j'ai deux vergers à la maison, et donc j'ai des fleurs de toutes les couleurs. Et puis, en fonction des couleurs des fleurs, et ben, on peut savoir si c'est un pommier ou un poirier ou un cerisier. Donc voilà, ça serait ma couleur, ça serait plutôt le vert, en fait.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
C'est de la sensibilisation à l'environnement, à la nature. Donc, ma démarche, elle est vraiment dans le ressenti, dans le fait de transmettre ma passion, le plaisir que j'ai de faire des découvertes, parce que on n'est jamais des professionnels. Enfin, moi, je m'estimerai jamais professionnel. Je serai toujours avant tout un amateur et un passionné. Et du coup, quand on est passionné par tout ça, et ben c'est assez naturel, en fait, la démarche, elle est assez naturelle d'expliquer par le geste, par le concret, par le ressenti, plutôt que par l'éducation scientifique, même si elle est importante, hein, pour nommer les choses et puis pour avoir un acquis de la culture générale, etc. Mais moi c'est plus dans ce ressenti là avec le public différent. Je travaille avec plein de sortes de publics. Mais du coup, je m'adapte aussi à ce public-là qui est un peu néophyte. Et le but, c'est de trouver du plaisir, quoi, de partager du plaisir.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'idée, ça serait d'apprendre à vivre avec le vivant plutôt que de continuer à vivre contre le vivant, quoi. C'est un peu un de mes leitmotifs, quoi. Quand je fais une animation, à la fin, il y a pas mal de choses qu'on a vues dans l'animation qui nous amènent à réfléchir sur notre place, sur notre impact sur l'environnement. Et on s'aperçoit qu'on est toujours en lutte contre l'environnement, quoi. Alors qu'il faut essayer en mieux comprenant, de faire avec plutôt que de faire contre, quoi.
On on va passer à la question d'actualité. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, tendez la feuille au prochain épisode de la chronique qui paraîtra semaine prochaine sur les ondes de notre radio PFM 99.9. En mars dernier, un article paru dans la revue Nature fait état d'une découverte prometteuse pour la médecine et nos agricultures. La lariocidine, un antibiotique issu d'une bactérie du sol. Pour rappel, un gramme de sol contient plusieurs milliers d'espèces de bactéries et un millier d'espèces de champignons. Au total, ce gramme représente des dizaines de millions de gènes et de fonctions. Ces dernières fabriquent les sols et leur fertilité, mais constituent aussi une formidable réserve ressource pour notre industrie ou notre santé. Depuis la découverte des antibiotiques au siècle passé, ces molécules ont été et sont encore énormément utilisées, que ce soit bien sûr en santé humaine, mais aussi dans l'agriculture, en particulier intensive. On sait maintenant que cet usage démesuré des antibiotiques a conduit les bactéries pathogènes à développer des résistances aux molécules dont nous disposons actuellement, les rendant de moins en moins efficaces. Ce phénomène, qu'on appelle l'antibiorésistance, présage d'une véritable crise sanitaire qui devrait survenir dans les années à venir. L'OMS la considère même comme une menace existentielle pour l'humanité. Et certains chercheurs estiment aujourd'hui près d'un million de personnes décèdent chaque année des conséquences de cette antibiorésistance. Il est donc essentiel de trouver de nouvelles molécules antibiotiques et de nombreuses équipes travaillent sur la question à travers le monde. Dans cette nouvelle publication, parue dans Nature, les scientifiques canadiens montrent que notre environnement est plein de ressources. Ils ont fait la découverte de la lariocidine, cette nouvelle molécule antibiotique, dans un échantillon de terre issu du jardin d'un de leurs collègues. Après examen, cette nouvelle molécule antibiotique pourrait bien s'avérer efficace contre plusieurs souches de bactéries pathogènes multirésistantes. Dans les sols, les micro-organismes attaquent les roches et la matière organique morte, produisant les molécules nitrates, phosphates, etc., et les éléments comme le magnésium, le potassium, les oligoéléments, qui nourrissent les plantes. Leur activité, ou les vides laissés à leur mort, font les petits trous qui retiennent l'eau et permettent qu'entre deux pluies, il y ait de l'eau disponible dans ces écosystèmes. Des champignons associés aux racines des plantes, les mycorhiziens, collectent ces ressources, eau et sels minéraux, et les acheminent aux racines en échange de sucre. Les microbes sont partout et sont des contributeurs indispensables au fonctionnement des écosystèmes. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
C'est assez logique, en fait, parce que la nature s'adapte, elle aura du vide, donc il y a des exemples aussi d'animaux qui s'adaptent, des insectes parasites, des cultures qui se sont adaptées aux pesticides, aux intrants, etc., donc... C'est assez naturel, en fait, au final. C'est assez extraordinaire, mais en même temps assez naturel. Donc, il faut que ça nous fasse réagir de manière... Le but, c'est pas de contrer la nature, mais c'est d'apprendre à mieux la connaître et à vivre avec, quoi. À faire avec. Chose de positive dans la nature, c'est qu'elle est assez résiliente. Hein. Donc, moi, je vois l'exemple de la création des mares. Quand on crée une mare à toute petite échelle, hein, il suffit de 2 mètres carrés, pour que la nature revienne à ses vies, c'est au moins encourageant pour l'avenir des générations futures. J'ai une animation sur le sol qui est assez simple. On va explorer d'abord le jardin et donc on voit ce qui pousse, etc. Puis bah, je pose des questions assez, c'est assez interactif, donc on se demande comment ça se fait que les plantes elles poussent comme ça dans de la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les plantes elles se sentent bien, etc. Et après, bon, on va au compost. Donc là, il y a 3 composteurs à différents moments de maturation. Et après, j'ai une petite mallette pédagogique sur la vie du sol où je montre les différents animaux qui peuplent le sol, avec les vers de terre, les micro-organismes, les champignons, les bactéries, les clopores, etc. Enfin, toute cette faune... des décomposeurs qui, sans elles, le sol serait pauvre. Et donc, je leur explique aussi que, à côté, dans les champs qui sont en conventionnel, il n'y a pas beaucoup de vie parce que le sol est toujours travaillé, est toujours labouré. il y a des fois la terre est nue pendant des mois et des mois, du coup il y a très peu de couverture végétale. Et voilà, il faut mettre de l'engrais pour faire pousser, dans l'engrais chimique, quoi. Du coup, j'explique aux enfants, au public qui est intéressé, que c'est important de maintenir un sol vivant. Et comment on le fait? En paillant, en lui donnant de la nourriture, en le nourrissant. Donc je mets en place après des jardins en permaculture. Donc c'est des jardins qui s'inspirent de la permaculture, c'est-à-dire qu'on fabrique un sol, notamment dans les écoles où il y a beaucoup de béton. Pour créer un sol, c'est assez simple, en fait, sur 50 cm, on met en place des jardins lasagne. Donc c'est des couches de matière sèche et des matières... c'est des couches de feuilles mortes, de paille, de copeaux de bois, de compost, plus ou moins mûr, de fumier, etc. Et tout ça, pendant quelques mois, ça va se décomposer, ça va se transformer avec la vie du sol. Et on va pouvoir après, en général, il faut quand même au moins un an, et on va pouvoir s'en servir pour planter des plantes. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être des légumes, peu importe, quoi. Donc en fait, c'est magique parce qu'on a fabriqué un sol avec des déchets que normalement on met à la poubelle, quoi. Enfin, tout ce qui est tombe de pelouse, le broyage, des feuilles mortes, les gens, je vois quand je vais à la déchetterie, ils jettent ça, quoi. Alors que c'est de la matière organique qui peut être utile pour faire pousser des plantes, quoi. Un atelier qui plaît beaucoup aux enfants, qui intéresse les adultes aussi, parce qu'on parle de compostage, et que le compostage, c'est quand même un peu un sujet à la mode, et tant mieux. Même si on est en retard, énormément en France, ça se développe quand même de plus en plus, quoi.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer?
J'ai lu un livre il y a quelques années et je suis en train de relire. C'est un livre d'Élisée Reclus sur la vie d'une montagne. Ça raconte un peu l'histoire de manière un peu géologique, mais de manière très poétique aussi, d'une montagne. Donc un livre d'Élisée Reclus sur la vie d'une montagne. Comme événement, le 16, le 17 et le 18 mai à Arnes, des Racines et des Hommes. C'est un super événement avec beaucoup d'ateliers. Et donc, moi, je ferai trois ateliers. Un atelier, donc, ça va être vendredi, ça va être avec les écoles. On va créer des balles de fleurs pour les pollinisateurs. Après, le deuxième jour, on va créer des nichoirs pour les mésanges bleus. Et après, le troisième atelier, on va faire des terrariums végétaux. Regardez l'horizon. Vaut mieux en rire que d'en pleurer.
Tu y as pêché où, baobab à cajou? Voici que cet épisode aux côtés d'un jardinier ami des êtres à plumes et à tiges prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie. Palissandre, mais les œufs tremblent être noyés.